Décryptage sur RFI.
Anne Corpet.
En France, Elisabeth Borne doit former son gouvernement. C'est la deuxième fois seulement qu'une femme entre à Matignon. La première était Edith Cresson, il y a plus de 30 ans. Elle avait à l'époque subi les pires mufleries de la part d'un monde d'hommes habitués à l'entre-soi. Trois décennies plus tard, la classe politique française est-elle toujours sexiste? La nouvelle chef du gouvernement échappera-t-elle aux commentaires machistes? Pourquoi la nomination d'une femme à ce poste reste encore un événement en France, tandis que d'autres pays européens dans ce genre de fait n'est même pas mentionné. Aujourd'hui, Décryptage se penche sur la place des femmes politiques en France. Et pour en parler avec nous en studio, Réjeanne Sénac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po et vous êtes l'autrice du Que sais-je sur la parité qui va d'ailleurs être traduit en japonais. Merci d'être avec nous en studio.
Merci à vous.
Nous sommes en ligne également avec Meraba Benchik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, enseignante, chercheuse associée à l'Université de Strasbourg et autrice de Femmes politiques, le troisième sexe chez l'Harmattan. Merci également d'être avec nous. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait des propos d'Elisabeth Borne au moment de sa nomination.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Alors aujourd'hui, en déplacement au Mureau, la Première ministre a réitéré, elle a à nouveau invité les femmes à rêver, à avoir confiance en elles. Comment vous réagissez à ces remarques, Réjeanne Sénac, qu'il est encore nécessaire en France en 2022 de dire aux filles qu'elles ont le droit d'aller au bout de leurs rêves, surtout en politique ?
Alors je trouve que c'est un message très ambivalent parce que c'est un message qui laisse penser que le problème est principalement dans l'auto-limitation des petites filles puis des femmes et que donc le problème n'est pas structurel, n'est pas systémique, n'est pas collectif, mais il est juste dans le fait que les femmes, les filles manquent d'ambition. Donc moi je trouve que c'est vraiment problématique de le poser en ces termes alors qu'on sait qu'il y a des inégalités qui sont des inégalités quel que soit le comportement des petites filles et des femmes, même quand elles ont les mêmes compétences, elles vont être discriminées d'un point de vue salarial, mais aussi dans leur orientation, dans leur évolution de carrière. Donc je trouve que là, c'est nier, en fait, que les inégalités femmes-hommes ne sont pas le fait d'une timidité ou d'un manque de confiance des femmes, mais bien d'un régime politique, économique qui est sexiste structurellement. Et puis, cette idée qu'on est rôle modèle, c'est intéressant. Mais si on est rôle modèle, ça sert aussi aux petits garçons à comprendre qu'en effet, les femmes peuvent être en position de responsabilité. Mais je trouve surtout que ça donne un message qui est complètement contradictoire avec un travail politique efficace. Qui travaillerait vraiment à faire en sorte que réellement, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, il soit indifférent d'être une femme et un homme dans son parcours.
Alors au lendemain de sa nomination, il y a eu beaucoup de réactions dans la presse, dans les milieux politiques sur le fait qu'elle est une femme. Éric Zemmour a affirmé que première ministre, c'est, je cite, moche à l'oreille. Alors c'est vrai que quand Edith Cresson a été désignée à Matignon, on disait premier ministre. Meraba Benchik, féminiser les termes, c'est important pour que les femmes trouvent leur place légitime en politique ?
Alors complètement, mais c'est bien que vous souligniez quand même cette évolution, parce que en 31 ans quand même, on n'employait pas cette féminisation des titres et des fonctions, qui n'est pas systématique. La preuve en est, selon aussi l'échiquier politique, et forcément souvent on peut retrouver aussi beaucoup plus de résistance et d'opposition de manière idéologique dans les partis de droite, voire d'extrême droite. Et ça a été quand même une première, que même lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex lundi dernier, il nomme Elisabeth Borne dans sa fonction de première ministre. Donc je trouve que d'un point de vue symbolique, les choses, bien qu'il y ait un grand retard, un retard assez criant, parce que sous la Ve République, n'avoir eu que deux femmes à ce jour, première ministre, ça questionne énormément, hein, d'un point de vue aussi démocratique. Mais en tous les cas, cette féminisation des titres et des fonctions me paraît assez nouvelle.
Alors revenons sur le cas d'Edith Cresson. Hein. Sa nomination avait été perçue par la classe politique comme une sorte de crime de lèse-majesté, y compris dans son propre camp. Diriez-vous, Réjeanne Sénac, que les mentalités ont évolué depuis dans la sphère politique ?
Alors, on peut quand même se réjouir qu'en 30 ans, parce que c'est quand même 30 ans hein, dont il s'agit, il y a eu quelques évolutions. Mais je trouve ça, j'avoue, assez étrange qu'on en soit à se dire qu'il y a une évolution parce qu'on dit première ministre, c'est-à-dire on n'invisibilise pas le fait que ce soit une femme, alors qu'il y a des guides sur la féminisation des noms de métiers et des fonctions depuis plus de 40-50 ans. Donc, je trouve qu'on est quand même très, très patiente et très patient, et que ce que ça dit, c'est un peu d'avancée, mais beaucoup de résistance. Et je trouve que c'est encore la preuve d'un sexisme, même s'il peut apparaître bienveillant, puisqu'on se réjouit de sa nomination, d'en être à commenter le fait qu'elle est une femme, plus que le fait que c'est une politique, et donc de commenter son bilan en tant qu'ancienne ministre, de commenter ses positionnements politiques. Voilà. Donc je trouve qu'on dit les résistances en France qui demeurent encore très fortes, pas seulement dans le monde politique, hein, puisqu'on peut voir la même chose pour les entreprises du CAC 40 ou pour tout poste vraiment de pouvoir. Mais c'est vrai que ça avance, mais ça avance quand même très, très lentement.
Alors s'il y a quelque chose qui suscite toujours beaucoup de commentaires, c'est la tenue vestimentaire des femmes politiques, hein, contrairement aux hommes qui arborent tous le même uniforme, costume sombre, chaussures cirées. Les femmes doivent se creuser la tête pour trouver une tenue adéquate. Merhaba Benchik, c'est vraiment une question qui se pose à elle.
Alors là, c'est complètement éloquent hein, d'avoir encore en 2022 des propos sur l'apparence physique, même sur la voix, hein, la voix
oui, on l'avait
comme
beaucoup
assez
reproché
grave,
à Ségolène Royal, par exemple.
Complètement. Et puis, j'ai regardé un petit peu dans la presse ces derniers jours le fait qu'elle soit qualifiée, qu'Elisabeth Borne soit qualifiée d'un peu garçonne avec ses cheveux courts. Non teinté d'ailleurs, donc c'est affligeant au possible. Pour le coup, il y a vraiment très très peu d'évolution, y compris sur aussi les qualificatifs liés à son tempérament. Un certain nombre de médias, voire aussi même dans la classe politique, ont repris le fait qu'elle serait sèche, hein, qu'elle serait perçue comme sèche, autoritaire, exigeante, austère, cassante, dure, à poigne, bon, sans relayer non plus son qualificatif qui serait... Son petit nom qui serait burn out. On est dans quelque chose, dans un statu quo, hein, dans un statu quo du traitement et médiatique et politique hein, des femmes.
Alors sur cette question de l'apparence, il faut rappeler cet épisode en 2012. Cécile Duflot avait été sifflée à l'Assemblée nationale lorsqu'elle avait décidé d'enfiler une robe à fleurs. Et 7 ans plus tard, donc en 2019, l'ancienne ministre a évoqué ce scandale, on l'écoute.
L'histoire est très simple, en fait il y avait une polémique parce que j'étais venue en jean le jour du premier conseil des ministres et donc j'avais décidé de m'acheter des vêtements qui poseraient pas de problème et du coup je me suis acheté cette robe. C'est lors des premières questions au gouvernement où au moment où je descends, mais j'ai même pas ouvert la bouche, je me fais huer.
Monsieur le Président...
Allez, écoutez.
Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
En vrai, dans l'hémicycle, c'est très violent. Et je trouve ça assez énorme. Je comprends pas très bien, d'ailleurs, sur le moment. Puis il y en a un qui a dit, allez, vas-y, enlève les boutons, quand même. Je sais qui c'est. Mais surtout, ce qui était terrible, c'est que c'était spontané et collectif. C'est-à-dire qu'ils ont été plusieurs à faire ça. Moi, je dis rien, mais eux, ils sont interrogés. Et ils disent des horreurs. Ils disent, elle a mis cette robe-là pour pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Non, on a fait ça pour dire qu'elle était jolie. Enfin, les commentaires qu'ils font face caméra, les députés, c'est incroyable.
Réjeanne Sénac, ce que cette histoire raconte, en somme, c'est qu'en politique, les femmes sont victimes de sexisme avant même d'ouvrir la bouche.
Ah, en politique, comme dans toute forme de représentation dans l'espace public, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, les hommes sont associés à la neutralité. À la neutralité politique, à la neutralité républicaine, alors que les femmes, et ceux qui associent au féminin, va d'emblée être considérées comme incongrues, comme décalées et comme les renvoyant à une logique de tentatrice, de séductrice, voilà, et va les mettre hors jeu. Du registre politique, ça va les dépolitiser. Mais ça, on va le voir dans le jugement qu'on va avoir de manière différenciée pour les femmes et pour les hommes, dans toutes les sphères. Et quelque part, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Cécile Duflot, c'est que les femmes en politique, mais on peut dire la même chose des femmes journalistes, enfin les hommes, on ne va pas préciser qu'ils sont hommes journalistes, et hommes politiques, c'est un paradigme, vont être toujours soit trop, soit pas assez. Les femmes, elles vont être trop féminines ou pas assez. Donc elle était trop casual ou voilà, avec son jean, trop androgyne, et puis elle était trop féminine avec sa robe. Donc on est vraiment dans quelque chose où il y a une injonction contradictoire entre les qualités dites féminines. Donc, quand on en a, on est perçu comme dépolitisé, parce que comme étant de l'ordre de la séduction. Et quand on n'en a pas, ou quand on n'est pas perçu sur ce registre-là, on peut dire, par exemple, sur les jugements qu'on peut avoir sur le fait de qualifier Elisabeth Borne de garçonne, ça va aussi être remarqué. Alors que ce type de positionnement ne va pas être fait sur les hommes qui, eux, sont jugés en tant que professionnels, en tant que politiques, avec ce mythe de la neutralité du masculin.
Alors, actuellement, les femmes représentent presque 39% des députés, mais elles n'occupent que moins de 4% du temps de parole à l'Assemblée. Merhaba Benchik, ça veut dire que les suffrages ne suffisent pas, que même élues, les femmes doivent se battre au fond pour exister aux côtés des hommes ?
Ben, complètement, parce que déjà, le champ politique dégage une certaine, un certain nombre de formes de violence, violence verbale, violence symbolique, il y a beaucoup d'agressivité. Il faut pouvoir être résistante pour pouvoir aussi exister politiquement.
Il faut se comporter comme un homme ?
Pas forcément. Je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. On a un grand panel au fil de ces 20 dernières années de profils de femmes politiques. Mais en tout cas, il faut s'imposer. Il faut avoir une certaine résistance mentale, une certaine endurance et pouvoir s'imposer. Mais avec son propre style, je dirais ni féminin ni masculin, le style qui vous personnalise tout simplement ou qui vous singularise en tout cas. Mais il faut pouvoir s'exprimer et être entendu. Et parfois, la parole des femmes, mais comme disait Régène Sénac, y compris dans l'espace public et puis dans certains métiers, et dans la prise de parole lors de réunions, tout simplement, pas forcément médiatisée comme à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat. Là aussi, il faut pouvoir capter l'auditoire, mais que cet auditoire-là vous écoute également, quoi. Et commande pas en aparté tout ce que vous pourriez dire et ne reste pas sur des paramètres qui n'ont pas lieu d'être, justement, et qui font référence souvent à l'apparence, au tempérament. Moi, ce que je voudrais signifier quand même par rapport aux femmes politiques, et notamment par rapport à la situation d'Elisabeth Borne, c'est aussi le fait qu'on renvoie souvent les femmes à leur conjugalité supposée, qu'elles soient hétérosexuelles ou voire même homosexuelles, lesbiennes, ce qui est complètement souvent nié dans cet ordre-là, mais sur aussi une supposée, une maternité réelle ou pas. J'ai vu ces derniers temps qu'Elisabeth Borne, elle est présentée systématiquement comme une femme divorcée avec un enfant.
Par exemple, ce qu'on ne fait pas pour les hommes.
Absolument pas. Encore moins, par exemple, pour le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. On ne fait pas état de sa non-paternité ou non voilà, non-parentalité. Et puis d'ailleurs, il met beaucoup en avant les petits-enfants de sa conjointe, épouse, qui sont, voilà, tout à fait. Donc c'est assez alarmiste hein, aussi de voir que tout est renvoyé souvent et au corps des femmes et
à leur statut conjugal.
Oui, et à leur sexualité supposée, fantasmée, voilà.
Pour aider les femmes à conquérir leur place en politique, il y a eu une loi hein, qui a été votée en juin 2000 et qui oblige les partis à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes pour différentes élections. Est-ce que ça a transformé l'ordre politique, Réjeanne Sénac ?
Alors, vous vous rendez compte qu'il a fallu réformer la Constitution en 99, voter des lois toujours plus contraignantes. Il y a eu plus de 10 lois depuis 2000 parce qu'on se rendait compte que là où la loi n'était pas contraignante, rien ne se passait. Donc maintenant, c'est contraignant pour les communes de plus de 1000 habitants. C'est contraignant aussi pour les exécutifs, en particulier pour les adjoints et présidents de conseils régionaux. Vice-présidents de conseils régionaux et de conseils départementaux. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là où la loi est muette, hein, en particulier sur les postes de numéro 1, que ce soit pour les maires dans les communes ou pour les présidents, justement, de conseils régionaux et de conseils départementaux, alors que, par exemple, pour les conseils départementaux, il y a autant de femmes que d'hommes, conseillers départementaux, il n'y a que 20% de femmes présidentes.
C'est-à-dire que les postes de pouvoir restent entre les mains des hommes.
Donc on continue à avoir une division horizontale et verticale parce que non seulement elles sont encore peu présentes dans les postes de numéro 1, peu présentes dans les postes de numéro 2, puisque là, la loi ne dit rien. Et puis, dans la répartition des missions et des délégations, on va regarder ça pour le gouvernement, mais on est encore dans une répartition très papa-maman, où les femmes sont à la santé, aux soins,
à l'éducation,
voilà, à la culture, et les hommes sont dans des postes décisionnels de protection, de sécurité, de relations internationales. Voilà. Donc,
on a quand même une femme ministre de la Défense.
Oui, en sachant que c'est un poste régalien où le chef d'État a quand même beaucoup de poids, donc on peut atténuer son rapport, son pouvoir. Donc moi, juste sur ce que vous disiez, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a eu une redistribution des postes. Les femmes sont beaucoup plus présentes et on a vu que ces lois étaient nécessaires pour abattre les cartes, mais elles ne sont pas suffisantes pour déverrouiller cette complémentarité, cette distribution en termes de complémentarité qui ne permet pas d'atteindre l'égalité. Espérons qu'on tende vers cette logique-là.
En fait, c'est souvent au gouvernement que la parité est la mieux respectée, alors que là, il n'y a aucune obligation légale. Comment vous comprenez cela, Merhaba Benchik ?
On va dire que... Oui, entre autres, mais maintenant, il y a une exigence de parité plus aussi quantitative et pas forcément systématiquement qualitative, hein. Mais il y a cette exigence-là de la part des derniers gouvernements. Hein. Faut être aussi un peu dans l'air du temps.
La société, elle est plus prête que le monde politique.
Complètement. Elle est beaucoup plus avancée, la société. Il y a quelque chose comme ça d'électoraliste aussi, voire de communicationnel, de marketing, de mettre aussi des femmes. Après, quels moyens leur sont donnés hein, pour exister réellement politiquement? Et ça sera la question aussi pour Elisabeth Borne. Comment pourra-t-elle aussi exister dans le temps qui lui est imparti, hein, juste avant d'ailleurs les élections législatives? Mais Emmanuel Macron, c'est quand même et d'autres présidents de la République comme Nicolas Sarkozy, c'était quand même des présidents très présents, hein, très présents pour ne pas dire omniprésents. Hein.
Très bien, je terminerai en disant que parmi les 26 autres pays européens, 18 ont déjà choisi au moins une femme à la tête d'un gouvernement. 2 ont eu 3 premières ministres, la Finlande et la Lituanie. Merci Merhaba Benchik d'avoir été avec nous par téléphone. Merci Réjeanne Sénac d'être venue en studio. Merci à Sigrid Azerwal qui m'a aidée à préparer cette émission et à Hélène Dutruc-Rosset qui en a assuré la réalisation. Tiens, ce ne sont que des femmes.